Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Away. We were down so low, didn't have nowhere to go. Planting that cotton, sugar cane. Where's my 40 acres? And a mule. 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 Well, First Nation people, that's what my kin folks said. Showed us which way to go. Follow that brightest star, you're gonna guide the way. They were wise red men long ago. I feel moaning down in my bone. Yes, I'm moaning down in my bone. I'm still moaning down in my bones. Moaning, moaning down in my bones.
C'est précisément l'épopée du blues ancestral que nous allons vous proposer cette semaine, puisque nous sommes installés à Coutances, dans le nord-ouest de la France, où le 23 mai dernier, trois musiciens inspirés nous offraient un voyage musical dans l'histoire des musiques noires à travers Cross Border Blues, un projet œcuménique porté par Jean-Jacques Milteau, Harrison Kennedy et Vincent Segal. Messieurs, merci d'être avec nous.
Merci.
Bonjour.
Que doit-on comprendre par Cross Border Blues? Quelle est l'intention de ce projet à trois, Jean-Jacques Milteau?
La Cross Border, c'est l'aspect transfrontalier qui a nommé le projet, puisque l'idée originale est celle d'un garçon qui s'appelle Sébastien Danchin, qui est un auteur, un journaliste, mais aussi un producteur de disques, puisqu'il a été mon producteur pendant un moment. Et c'est bien une idée de producteur, en fait. C'est-à-dire, c'est de mettre ensemble des gens qui n'ont pas de choses en commun forcément au départ, en tout cas qui ne se connaissent pas directement, pour essayer d'arriver à quelque chose de spécifique. Voilà. Donc Cross Border, je pense que c'est une idée à lui. C'est un traverseur de frontières, de toute façon.
Que représente pour vous Cross Border Blues, Harrison Kennedy?
Well, for me, I think playing with these two gentlemen, number one, I realize that...
D'abord, le fait de jouer avec ces deux gentlemen me fait prendre conscience que je ne peux plus faire marche arrière et que je ne retrouverai plus jamais ma vie professionnelle d'antan. Je suis assez heureux que notre producteur, Sébastien Danchin, ait eu l'idée de nous réunir car nous avons, tous les trois, une culture musicale différente et très éclectique. Dans ma famille, par exemple, il y avait toujours cette confrontation entre les amateurs de jazz et les amateurs de blues. Les amateurs de jazz ont d'ailleurs remporté le duel chez moi, sauf lorsque nous nous rendions chez mon oncle qui adorait le blues, ce qui m'a donné l'occasion d'écouter sa collection de disques et de découvrir des bluesmen légendaires. Le reste de ma famille écoutait du jazz et se chamaillait même sur les appellations. Certains prenaient les valeurs du bebop, d'autres préféraient utiliser le mot swing. Il y avait les fans de Louis Armstrong et les adorateurs de Sonny Stitt. Et moi, je regardais avec mon œil d'enfant ces confrontations de spécialistes, car, vous devez le savoir, parmi nos invités, il n'était pas rare de voir arriver Duke Ellington, Lonnie Johnson ou Billie Holiday qui m'impressionnaient énormément. Parfois, je les observais jouer sur notre vieux piano dont certaines touches étaient esquintées, mais personne ne s'en plaignait car l'intention première était de faire de la musique tous ensemble. Chez mon oncle, on se cachait dans la cave pour écouter du blues car ma tante ne supportait pas cette musique. Au Canada, où résidait une bonne partie de ma famille qui avait fui la ségrégation américaine, le blues n'était pas un style musical en vogue. Par contre, mes amis à Détroit ou dans le Tennessee adoraient le blues. Tout ça pour vous dire que me retrouver sur scène aujourd'hui avec mes deux nouveaux amis, Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal, est un processus logique, puisque eux aussi ont suivi des trajectoires artistiques très diverses. Le père de Vincent lui a fait écouter un nombre incalculable de disques très variés. Quant à Jean-Jacques, il s'est rendu dans le sud des États-Unis pour comprendre le blues. Il a de surcroît une collection d'harmonica invraisemblable. Il m'a d'ailleurs fait l'honneur de m'en offrir un. C'est la raison pour laquelle j'adore ce type. Il est un virtuose de cet instrument. Bref, ma réponse est très longue, mais je voulais juste vous dire que je suis heureux d'être de retour en France, un pays que j'ai découvert en 1999 en simple touriste. Pouvoir aujourd'hui me produire chez vous avec mes deux nouveaux comparses est un bonheur, car j'adore ce pays.
So now that I'm here doing music and here it's just like, oh, I love this place. I love it. I really love it.
L'une des particularités de ce trio que vous formez, c'est la présence d'un violoncelle, un instrument assez peu représenté dans l'histoire du blues. C'est vous, Vincent Segal, qui apportez cette tonalité nouvelle à une musique africaine-américaine. Quelle lecture doit-on avoir de votre présence aux côtés de deux bluesmen enracinés dans l'âme noire?
Je pense que c'est, comme disait Jean-Jacques, ça a à voir aussi avec Sébastien, qui a dû m'entendre. Il a dû entendre que quand je jouais, que j'improvisais, il y avait un feeling qui avait à voir vraiment avec le blues, même si je jouais du reggae ou d'autres musiques ou du funk. Il y avait toujours quelque chose, des références précises que lui entendait sûrement, j'imagine. Et après, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ma façon de jouer de mon instrument, surtout après l'adolescence, c'était une façon de se servir du violoncelle pour évoquer effectivement des belles voix que moi je n'avais plus. Quand j'étais petit, je chantais bien, et après, à l'adolescence, en muant, il y avait quelque chose que j'adorais dans la voix que je ne retrouvais pas. Et en fait, avec Harrison, je suis content de... parce que c'est quelqu'un qui chante et qui invente en permanence. C'est-à-dire qu'il y a toujours une référence au passé dans sa voix qui le lie au blues. Et en même temps, on le voit avec Jean-Jacques quand on joue avec lui, il invente perpétuellement des choses. Oui. On ne peut rien fixer. On ne peut pas dire cette note-là, il va la chanter là ou là. Donc ça, c'est merveilleux. Et donc, ce que j'aime avec mon violoncelle, c'est que je m'en sers comme quelque chose qui transforme ma personnalité. C'est un outil, mais je n'utilise pas en me disant « je joue du violoncelle », c'est mon outil. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je trouve de beau dans l'harmonica, c'est que l'harmonica, c'est une façon de transformer une voix comme une voix de quelqu'un qui n'existe pas. Le côté bruiteur africain, c'est-à-dire que c'est le souffle plus l'harmonica, plus la personnalité qui joue, qui fait que on a l'impression d'entendre une voix qui n'est pas une voix habituelle. Qui est... Et c'est pour ça que ça allait si bien avec les bluesman. Ça fait comme un dialogue avec la voix de la personne qui chante. Et l'harmonica, c'est comme une personne. Et en fait, avec le violoncelle, il y a ce grain qui fait que j'essaye aussi de... que ce soit une troisième voix, presque.
Mais en tant que violoncelliste, vous avez forcément suivi une formation classique européenne. Est-ce qu'il est facile de se fondre dans une humeur blues issue du peuple noir américain?
Oui, mais ça, on peut pas. C'est marrant parce que souvent, c'est une question qui revient souvent avec cette formation. C'est sûr qu'on peut pas lutter contre l'origine de son jeu et sa musique et comment on l'a pratiquée. Et j'ai jamais cherché à le nier. Et en même temps, j'ai toujours cherché à jouer à ma manière. Après, j'ai des copains violoncellistes qui ont subi, j'aime bien le mot, la même formation que moi. Et en fait, ils ne pourraient pas me remplacer. C'est impossible d'imaginer. Je sais que si je les envoie pour jouer avec eux, ils vont dire déjà, ils vont avoir besoin de lire. Mais pour moi, Duke Ellington, on parlait de Duke Ellington, pour moi, c'est un compositeur de mon patrimoine classique, en tout cas. C'est-à-dire que je considère comme... Je ne fais pas de différence entre Duke Ellington et Mozart.
On dit souvent que le blues est l'expression d'une rencontre entre colons européens et esclaves africains. Ce trio est-il une émanation de ce que pouvait être le dialogue culturel entre blancs et noirs au tournant du XXe siècle, Jean-Jacques Milteau?
Je ne sais pas, je crois que l'actualité, tout ce qui se produit chaque jour, qui nous surprend, nous apprend que, en fait, les choses sont telles qu'on les voit et non pas telles qu'elles existent. Et on a toujours une façon de juger, une façon de classifier qui vient de notre éducation, ce qui est assez normal, chacun d'entre nous. Je ne crois pas qu'on puisse se lancer dans des définitions définitives comme ça. Il y a une recherche, ce que j'entends mes camarades, et je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est ce qu'on recherche, c'est que la musique nous traverse, qu'on soit des vecteurs de musique. Et à la limite, presque qu'on intervienne le moins possible. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais essayer de s'abstraire un peu, c'est-à-dire laisser la musique couler.
Donc dire que le blues est l'expression du peuple noir, c'est une erreur, c'est un raccourci.
Non, non, c'est pas du tout. Socialement, ethniquement, c'est la réalité. C'est une world music dans le sens où des gens ont été déportés d'Afrique en Amérique et ça a donné certaines musiques dans les Caraïbes, certaines musiques dans l'Amérique du Sud et le blues dans l'Amérique du Nord. Ça, c'est clair. Maintenant, quand quelque chose existe, ça appartient au patrimoine de l'humanité et tout le monde s'en sert.
Qu'en diriez-vous, Harrison Kennedy?
Il y a une expression que l'on utilise souvent pour parler de musique chez moi. C'est le mot « gumbo ». C'est un terme qui vient de la Nouvelle-Orléans, des croyances vaudoues et qui reflète les différentes influences nées du métissage sonore. La musique classique européenne, les musiques folkloriques écossaises et irlandaises et les musiques africaines. Le gumbo est l'addition de toutes ces cultures.
Donc c'est une salade composée, dirons-nous. Sur scène, vous interprétez des titres de B.B. King, Marvin Gaye, Ray Charles, Oscar Brown Jr., 40 Acres on a Mule. Est-ce qu'on peut dire que vos prestations ont une dimension pédagogique? Est-ce que vous cherchez à raconter l'histoire du peuple noir?
Exactly. Well, you know, I don't concentrate on black guys that have been dead for 80 years.
Absolument. Cela dit, je ne cherche pas seulement à raconter la destinée d'Afro-Américains morts il y a 80 ans. Voyez-vous, j'ai commencé à chanter à l'église. J'avais une voix de ténor à l'époque. Ma tante célébrait la messe le dimanche à Détroit et parfois elle m'emmenait voir Aretha Franklin chanter dans une autre paroisse de la ville. J'adorais l'écouter. Quand je me suis retrouvé à Hamilton, au Canada, avec mes parents, la messe n'avait pas la même allure. Le pasteur voulait que je chante des cantiques. Lorsqu'il a entendu ma voix pour la première fois, il m'a aussitôt interrompu. « On ne chante pas de la sorte ici !» Il s'attendait à une interprétation plus académique. La différence entre les Negro Spirituals et le gospel m'est apparue ce jour-là. On voulait m'entendre chanter des cantiques religieux du genre
« Oh Lord, we have you in our hearts »
et moi, je chantais ça.
That's the way, because I had to reach that. That's where that come from.
C'est ce qui me venait naturellement à l'esprit. Quand vous êtes honnête dans votre art, vous touchez le public. L'église noire de Détroit avait révélé qui j'étais vraiment. Et seul ce lieu précis me permettait de m'exprimer ainsi. Je rencontre toujours une vraie difficulté à interpréter une musique que je ne ressens pas. Il me faut alors écrire des paroles pour donner du sens à mon interprétation. Même mes parents avaient tendance à me brider car j'étais un gamin plutôt bavard avec des opinions bien tranchées. C'est le problème que rencontrent les gens qui ont un peu de jugeote. Ils ne se laissent pas mener par le bout du nez. Par conséquent, pour revenir à votre question, chanter le blues ne signifie pas nécessairement, pour moi, raconter l'histoire du peuple noir. Je veux aussi narrer d'autres histoires comme celle de mon ami Eugène. Ses parents ont fui le pouvoir stalinien en passant par les forêts d'Europe de l'Est. Il faisait froid et la maman d'Eugène portait ses deux enfants, des jumeaux, dans ses bras. Après des heures de cavalcade, elle prit soudainement conscience que l'un des jumeaux avait disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Est-ce que ce drame n'est pas synonyme de blues à vos yeux? Ces gens ont été merveilleux avec moi. Ils représentaient ma seconde famille. J'étais toujours le bienvenu chez eux malgré leurs faibles moyens. Un jour, j'ai découvert leur musique, leur violon. Et j'ai vraiment aimé cette culture slave que je ne connaissais pas. Le blues est donc partout pour moi. Le monde va tellement vite et la folie de ceux qui nous gouvernent est telle qu'il faut apprendre à accepter nos différences, nos modes d'expression. C'est ce que j'essaye de faire à travers ce projet qui me permet d'échanger avec deux gentlemen de la musique que je prends plaisir à côtoyer chaque jour.
Vincent Segal et Jean-Jacques Milteau, quelle image avez-vous de Harrison Kennedy quand vous êtes sur scène à ses côtés, Vincent Segal?
Moi, je l'entends d'abord. Les textes, en fait, je les écoute à moitié. Je les écoute parce que j'entends, mais en fait, ça va plus loin que les textes même. C'est un tout qui est difficile à décrire, mais qui me met en transe, en fait. La musique, pour moi, c'est une transe. Donc, en fait, si sur scène, je ne suis pas dans cet état-là, c'est que je n'arrive pas à jouer. Si j'ai écouté ces textes en me disant « Tiens, qu'est-ce qu'il dit ?», j'arriverai pas à avoir cette communication. C'est vraiment un état où je me fais plaisir. Il m'apporte du plaisir, en fait. C'est comme une drogue.
Jean-Jacques Milteau.
Ben, moi aussi, je l'écoute volontiers. C'est effectivement un conteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Ce qui est important, c'est de titiller la curiosité des gens qui viennent nous voir pour qu'ils aient envie d'en savoir plus, de comprendre mieux les choses. Effectivement, les gens qui viennent ne sont peut-être pas les gens qu'il faut le plus convaincre. Mais j'ai toujours eu la faiblesse de penser que la musique, était une manière d'exciter la curiosité, de donner envie d'en savoir plus, de voir autour comment, d'où ça venait, où ça allait évidemment, qui pratiquait ça, pourquoi. Et moi j'ai toujours été un fan d'histoire et j'ai toujours adoré ça. Harrison a tout un tas d'histoires à nous raconter, donc ça tombe bien.
En tout cas, le 23 mai 2017, au Festival Jazz Sous les Pommiers, ça donnait ça. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone. The thrill is gone away. You know you done me wrong, and you'll be sorry someday. The thrill is gone, it's gone away from me. The thrill is gone, the thrill is gone away from me. Enregistré à Coutances dans le nord-ouest de la France le 23 mai dernier, c'était Jean-Jacques Milteau, Harrison Kennedy et Vincent Segal, nos invités dans l'épopée. Jean-Jacques Milteau, on connaît votre goût pour la culture noire, on se souvient de vos collaborations avec Terry Callier, Gil Scott Heron, plus récemment Eric Bibb. Vincent Segal, votre association avec Balaké Sissoko nous a charmés au fil des années. Que vous apportent ces échanges avec les grandes figures de l'épopée des musiques noires, Jean-Jacques Milteau?
Je ne reprendrai pas le terme d'exotisme parce que c'est malvenu, mais... J'aime bien qu'on me raconte des choses qui viennent d'ailleurs que l'endroit où j'ai été bercé, enfin où j'ai grandi. Ce que disait Harrison à propos de son copain, c'est un peu pareil, quoi. On aspire, il faut qu'on aspire, il faudrait que tout le monde aspire à savoir comment ça se passe de l'autre côté du mur. Chez moi, c'est pas une obligation, c'est un plaisir.
Harrison Kennedy, est-ce que converser avec Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal musicalement a changé votre manière de concevoir ou d'interpréter la musique?
Well, in my humble opinion, I don't think there's another trio like this.
D'abord, je tiens à dire qu'il n'existe pas de trio comparable à celui-ci ailleurs sur cette terre. Ensuite, je ne cesse d'apprendre à leur côté. Lors du dernier concert, par exemple, j'ai réalisé que j'avais la capacité d'accorder ma voix à n'importe quelle tonalité. En fait, j'ai compris cela en faisant une erreur de manipulation de mon accordeur numérique. J'ai cru avoir calé ma voix sur la bonne tonalité, alors que ma guitare et mon banjo étaient sur un autre ton. Je savais que quelque chose clochait, mais j'ai continué à chanter en m'adaptant à la situation jusqu'à ce que Vincent me fasse remarquer que je n'avais pas appuyé sur le bon bouton. Mais bon, je m'en suis sorti honorablement et j'ai appris de mes erreurs, ce qui est une bonne chose. Même les plus grands font des erreurs. Je me souviens m'être retrouvé sur scène jadis aux côtés de Stevie Wonder. J'assurais ma prestation, il s'est approché de moi. « Que dirais-tu de changer de tonalité ?» me dit-il à l'oreille. J'ai évidemment suivi ses recommandations et lui m'a littéralement bluffé en faisant les chœurs en duo avec moi. Mais alors que résonnaient les premières mesures de son tube « I just called to say I love you », il a eu un trou de mémoire. Et oui, ça arrive même au plus grand. Eh bien, il ne s'est pas démonté, il a continué à jouer du piano, il a repris le refrain et le tour était joué. J'ai compris ce jour-là que notre devoir d'artiste, quand nous sommes sur scène, est de ne jamais se laisser perturber par un imprévu. Il faut poursuivre le spectacle comme si de rien n'était. Ella Fitzgerald a connu la même mésaventure à Berlin, qui s'est devenue un moment historique. Pour retomber sur ses pieds, il faut qu'il y ait cette vibration entre les musiciens que j'appelle la complicité. Je ressens cela avec mes deux amis Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal. Ce sont des génies car ils parviennent à me suivre même quand je déraille. Et ça, c'est un exploit.
they have the ability to follow me, and that's anybody that can do that, man, it's got to be happening.
Harrison Kennedy, vous avez connu les grandes heures de la soul et du blues. Vous avez participé à l'album What's Going On de Marvin Gaye. Vous avez brillé au sein des Chairmen of the Board. Vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros en France. Après une telle destinée, que vous apporte de plus ce trio Cross Border Blues?
This is better and this is no lie.
C'est encore mieux que ce que j'ai connu dans le passé, je vous l'assure. Mon ancien groupe, les Chairmen of the Board, fut une sacrée expérience, mais le trio actuel me donne tellement de liberté. Dans la pop musique, il faut se présenter de la même manière chaque soir sur scène. Il faut chanter exactement les mêmes chansons. Plus jeune, je suis passé par ce genre de contraintes et j'ai appris de chacune de ces expériences. Aujourd'hui, j'ai le loisir de chanter aussi librement que durant mon enfance, quand ma mère me demandait de chanter une jolie mélodie que j'inventais sur l'instant devant des invités. J'avais 7 ans, je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi, alors j'improvisais une chanson. La toute première ressemblait à cela.
Oh, there's Uncle Clifford sitting on the couch. He don't know his cigarette's gone out. His ashes are all over the floor and they all went crazy.
Eux étaient ravis. Et ma mère m'envoyait au lit. Tout cela est de sa faute.
So it's her fault.
Cela se passait généralement dans la cuisine. Par conséquent, désormais, la scène, c'est ma cuisine. J'essaye d'être aussi relax que je l'étais à 7 ans dans la cuisine de la maison familiale.
Don't worry about it.
Lorsqu'on est, comme vous trois, des musiciens aguerris, est-ce que la compréhension artistique est immédiate? Ou est-ce qu'il faut une phase d'adaptation tout de même, Vincent?
Justement, la beauté de tout ce qu'on fait qui est oral, c'est qu'il faut qu'on soit tout le temps surpris, qu'on puisse tout le temps en permanence s'adapter, tout le temps, mais en même temps changer les choses. Et en même temps, il y a cette pulsation qui n'existe pas, il n'y a pas de métronome. Et on déteste ça. Et en même temps, il faut qu'il y ait une pulsation qui vienne, le gombo. Du rythme. Mon entre nous, on n'a pas la même manière de danser, pas la même. Par exemple, il y a des musiciens qui sont laid back. Moi, j'ai tendance à avancer. C'est pour ça que j'arrive en avance quand j'ai des avions, des trains. Je peux pas arriver en retard. C'est des trucs qui sont liés au tempo. Il y a des gens qui vont arriver juste sur le dernier moment. Il y a des tubistes ou des bassistes, ils vont louper leur train toujours parce qu'ils sont laid back.
Oh, yeah.
Et ça, j'aime. Si tout le monde a le même tempo, c'est pas beau la vie. Il faut qu'il y ait un peu des gens qui disent allez, on y va. Et des gens qui sont là, ouais, relax, man. On est. C'est ça que j'aime.
See, man, that's two wings of the bird.
Il ne faut pas oublier que le temps est notre matière première. C'est-à-dire, dans la musique, il n'y a rien d'autre que le temps. On ne peut pas arrêter la musique. Donc, ça ne signifie rien. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'arrêt sur image. Quoi. Les gens qui viennent nous voir vivent à notre tempo. C'est ce qu'ils veulent, d'ailleurs. La lumière s'éteint, la lumière s'allume, ils ne savent pas combien de temps ça a duré. On est les maîtres du temps, quelque part, si on se débrouille bien. Et la notion de temps, c'est vraiment un truc extrêmement important, puisque personne n'y survit, voyez-vous.
On est d'accord. Très belle conclusion. Merci messieurs et tous nos vœux vous accompagnent. Merci à vous trois.
Merci à la vie.
Merci.
Merci à vous. Slavery and genocide. Should never be. Cause you and I both know when you've been treated just like dirt, we should know.
Monopoly on earth. Oh Lord.
C'est sur ces notes inspirées enregistrées le 23 mai 2017 lors de la 36e édition de Jazz sous les pommiers que nous allons nous quitter. Merci à Jean-Jacques Milteau, Harrison Kennedy et Vincent Segal de nous avoir permis de vous faire découvrir en exclusivité leur projet Cross Border Blues, dont nous espérons un album dans les prochains mois après le vif succès remporté en Normandie dans le nord-ouest de la France. Merci à Marc Fichet pour la réalisation à Coutances et Nathalie Laporte pour la supervision à Paris. Et nos salutations distinguées à l'équipe de Jazz sous les pommiers pour nous avoir facilité ce reportage. Si cette conversation autour des échanges culturels dans l'épopée des musiques noires vous a intéressé, je vous recommande un festival qui débutera le 8 juin prochain à Paris et se poursuivra jusqu'au 26 juillet dans deux autres villes cosmopolites majeures, New York et Montréal. L'idée de l'héritage festival est de croiser les univers sonores issus de la diaspora africaine dans le monde. Sont notamment annoncés lors de cette édition 2017 la chanteuse et guitariste Ruthie Foster, le pianiste Shakti Diensek, le vibraphoniste Roy Ayers ou Sheun Kuti, l'un des fils de Fela, pour un hommage au Black President. Le New York Paris Heritage Festival, c'est donc du 8 juin au 26 juillet, des deux côtés de l'Atlantique. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre étude des musiques métisses avec Bertrand Dical, auteur d'un ouvrage passionnant, Ni noire ni blanche, l'histoire des musiques créoles. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.
Treated like dying, we should know there ain't no monopoly on her.
Thank you.